On va parler thanatopraxie maintenant dans CQFD, c'est-à-dire que nous allons nous intéresser aux techniques mises en œuvre pour conserver les corps des défunts. On appelle ça tout simplement l'embaumement des corps, Sarah Dirène.
Oui, Sylvio, ne pas confondre avec la toilette mortuaire pratiquée sur les défunts. La thanatopraxie est une forme moderne d'embaumement. Les liquides corporels sont remplacés par un produit chimique, en général du formol. Cette technique permet de retarder le processus naturel des décompositions et donc aussi d'éviter les odeurs désagréables, par exemple. Nous irons tout à l'heure avec une thanatopractrice diplômée, Camille Béguin, voir comment se déroule un soin de conservation, une pratique de plus en plus courante en France, par exemple, où 200 000 embaumements sont pratiqués chaque année. En Suisse, c'est plus difficile de trouver des chiffres. Alors peut-être parce que le métier de thanatopracteur n'est pas encore reconnu, mais je vous donne un ordre de grandeur. Camille Béguin réalise une quarantaine d'embaumements par mois, aussi bien à Genève que Lausanne, Neuchâtel ou Le Valais.
On va la retrouver tout à l'heure, Camille Béguin, mais pour l'instant, le plaisir de saluer Marc-Antoine Berthaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Société d'études thanatologiques de Suisse. Vous êtes anthropologue et également professeur à la Haute École de Travail Social et de Santé à Lausanne. Alors, la thanatopraxie, pour rappeler un petit peu le contexte, prend ses racines au début de l'Antiquité avec la momification, c'est bien ça?
Alors oui, effectivement, les techniques d'embaumement ont une longue histoire. Elles se déclinent sous des formes tout à fait diverses. Elles ont été essentiellement développées pour faire face au pourrissement du cadavre. On peut dire sur un plan anthropologique qu'elles permettent de traiter collectivement l'impureté qui est représentée par le mort et plus globalement aussi la dissolution de l'être. C'est pour cette raison que les corps morts ont toujours fait l'objet d'une grande attention et de beaucoup de soins. Donc le traitement des morts, il est attesté dans la préhistoire déjà, ce qui veut dire que les métiers de la mort sont aussi très très anciens et il reste la plupart du temps ces métiers intrigants car il y a l'ambivalence du cadavre et puis le fait de travailler aussi avec ou sur eux.
Oui, mais par exemple, Marc-Antoine Berthaud, pour quelles raisons l'embaumement est pratiqué beaucoup, 70% je crois, au Canada, aux États-Unis, ça vient d'où?
Alors, ça vient essentiellement de trois éléments. Le premier, c'est que le traitement des morts devient spécialisé par les pompes funèbres. Au tournant du XXe siècle, on commence à s'organiser, on propose des traitements relativement standards via ce qu'on appelle les funeral homes. Et c'est là que les familles vont se recueillir et dans des lieux qui vont respecter des nouvelles règles d'hygiène en quelque sorte.
Oui, mais pour quelles raisons aux États-Unis, au Canada et pas en Suisse ?
Déjà, parce que effectivement cette technique-là s'est développée aussi, on peut rajouter ça, dans l'orbite médicale, où on a acquis la possibilité de disséquer les corps. Et en fait, aux États-Unis, ça s'est particulièrement développé. Et un troisième élément contextuel, plutôt, c'est qu'à partir de la guerre de sécession, 1860-1865, on a souhaité rapatrier les soldats morts dans leurs familles.
C'est une pratique interdite, par exemple, chez les bouddhistes et chez les musulmans?
Alors oui, c'est une pratique qui est interdite d'un point de vue religieux, surtout que on prépare les corps pour leur destinée en quelque sorte posthume. Donc si on veut les enterrer rapidement, c'est clair que la thanatopraxie va un peu à l'encontre de ces principes religieux. Donc ça peut expliquer un certain nombre d'interdictions liées à ces conceptions religieuses, qui n'empêchent pas par contre, c'est important de le souligner, la mise en œuvre de toilettes funéraires qui sont moins intrusives et qui permettent de prendre soin du cadavre.
Vous parliez de rapatriement des corps dans leur famille à l'époque de la guerre de sécession. Je crois savoir qu'en fait, l'embaumement est obligatoire si par exemple un corps, enfin quelqu'un meurt à l'étranger et qu'il est rapatrié dans son pays un peu plus tard.
Ah oui, ça dépend des réglementations internationales. C'est-à-dire que certains pays exigent pour un rapatriement que l'embaumement soit pratiqué.
D'accord. Alors Sarah, maintenant on va vous suivre lors d'un soin de conservation d'un corps avec Camille Béguin, donc, qui est thanatopractrice diplômée.
Et diplômée en France, puisque le métier n'est pas reconnu en Suisse. Alors faut-il encore que ce métier soit connu avant d'être reconnu? Alors il faut compter une heure et demie pour pratiquer un soin de conservation qui se déroule en général dans le laboratoire mortuaire, des pompes funèbres. Mais il arrive aussi que Camille Béguin embaume des corps à domicile, tout dépend dépend de la relation entre la famille et le conseiller funéraire. Alors, son matériel est mobile, sans oublier le masque, hein, pour les odeurs. Les gestes que pratique Camille Béguin sont toujours très délicats, respectueux et très techniques. Et ce jour-là, c'était un dimanche matin, deux corps attendaient d'être embaumés, deux femmes âgées, décédées la veille, dont une que Camille Béguin connaissait.
Je suis un petit peu triste, mais je vais la faire toute belle.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire en premier? Parce que là, elle a, vous allez déjà la déshabiller. La peau est huméfiée.
Oui, alors ça, c'est ce qui arrive souvent en fin de vie. C'est soit les traitements, souvent avec l'âge, la peau devient très très fine, comme du papier à cigarette, si vous voulez, puis elle se fendit très facilement.
Je vais vous demander de vous mettre juste entre...
D'accord, mais entre les deux corps, voilà. Alors là, le corps est rigide.
Oui. Alors, par exemple, vous voyez le bras, il est rigide, mais il suffit de... Ah, ça, on va, par contre, on va l'arrêter.
Oui, c'est la ventilation?
Non, c'est quelqu'un d'autre qui est dans le frigo.
Ah, il y a encore un troisième mort dans le frigo?
Oui. Il n'y avait pas de soins, donc du coup, on l'a mise dans le frigo. Alors, la rigidité, il suffit de plier.
Oui, vous lui pliez le bras.
Plier le bras, et après, il n'y a plus de rigidité.
Oui. Et donc, idem pour les doigts?
Idem pour les doigts. Vous faites comme ça, et après, la main, elle est souple.
Alors, vous la soulevez. Alors, c'est quand même physique, oui, parce que c'est très physique.
Mais en fait, c'est des techniques, si vous voulez. On essaye de se ménager le dos le plus possible. Alors, des fois, je demande de l'aide. Mais là, en l'occurrence, le week-end, il n'y a pas grand monde. Donc, je fais au mieux.
Alors, vous enlevez aussi les petites chaînes?
Oui, parce que je vais avoir besoin de... Pour faire le soin de conservation, je dois passer par la carotide, qui est donc ici. Mm-hmm. Donc, tout ce qui est bijoux, j'enlève. Bon, ça... Je vais risquer d'enlever la peau, donc je vais laisser les bagues. Puis maintenant, je vais préparer mon matériel. Alors là, j'installe d'abord ma pompe. C'est une machine à deux moteurs. Un moteur qui aspire et un moteur qui pousse. Pousser, ça va injecter le formol mélangé avec de l'eau. Puis aspirer, ça va aspirer le sang à l'extérieur.
À peu près 9 litres?
Oui, à peu près.
Non, on a environ 10% de son poids.
Donc 10% de son poids, si elle fait 60 kilos, ça fait 6 litres. Et encore, je ne suis pas sûre qu'elle ait 6 litres. Après, il y a les liquides, mais elle n'est pas pleine de liquides. Donc, je ne pense pas que... Il y a des gens, si vous voulez, ils arrivent, on dirait qu'ils vont accoucher. Puis vous enlevez 5-6 litres dans le ventre. C'est de l'acide. C'est quand les reins ne fonctionnent plus, ça gonfle le ventre. Et puis, du coup, il faut tout enlever. Ça va, sinon, ça va sortir. Et puis, ça peut sortir par la bouche, ça peut sortir... Et donc, ça, il faut enlever. Puis, en plus, ça ne leur donne pas une jolie silhouette. Parce qu'en fait, ici, vous avez vu, j'ai un tube à ponction, ça s'appelle... Donc avec ce tube en ponction, je vais pénétrer directement dans le cœur. Donc là, je vais m'occuper de tout ce qui est circulation du sang. Et ensuite, avec le même tube, je vais aller dans les différents organes. Donc je vais aller dans l'estomac, je vais aller dans la vessie, dans les poumons, et je vais aspirer tout ce liquide.
Donc la couleur est plutôt blanche, hein? Blanc-gris.
Quelqu'un qui a fait un infarctus, par exemple, il va être... rouge violet, les oreilles souvent très violettes, et grâce au soin de conservation, tout partira. Donc ça, c'est l'avantage. Là, je vais aller ici, dans la
carotide. Voilà, vous prenez un petit scalpel et là, maintenant, vous commencez les incisions.
Voilà.
Vous cherchez la carotide. Voilà. Alors, il n'y a pas de sang?
Non. Sur quelqu'un qui est décédé, bien entendu, qui a plus de pression sanguine.
Là, vous ouvrez sur une profondeur de 3 cm et là, vous cherchez la carotide.
Voilà. Donc, on a des points de repère. Hop. Est-ce que vous avez déjà vu une carotide?
Non. C'est comme un nerf.
C'est donc une artère. C'est tonique, c'est épais. Là, vous allez voir quand je vais l'ouvrir parce qu'en fait, ça doit résister à la pression sanguine.
C'est vous voyez, là, couleur chair, oui.
L'épaisseur.
C'est très épais. Et là, vous allez commencer à injecter le formol.
Voilà. J'injecte. Donc là, si vous voulez, il y a déjà le formol qui part.
Qui part dans le corps, oui. Mais maintenant, tout ce qui était système veineux, tout ce qui était sang, ça part où?
Pour l'instant, ça part pas. Maintenant, je mets un petit peu le corps sous pression. Si vous voulez, ça va gonfler un peu le cœur, donc c'est plus facile de le trouver directement du premier coup. Et ensuite, je vais faire l'extraction, si vous voulez. La ponction. Et ça, c'est donc mon autre moteur qui aspire. Et ça, c'est le moteur qui pousse. Donc, si vous voulez, j'ai Les deux appareils qui peuvent fonctionner en même temps. Dans le cœur, là.
Donc là, vous avez percé le cœur.
Voilà.
Mais c'est du sang, en fait, rouge.
Oui, il est foncé, parce qu'en fait, c'est du sang veineux, il est plus oxygéné. Quand il est oxygéné, il est beau rouge, et puis quand il revient, il est sale, parce qu'il a été chercher déjà toutes les toxines qui sont dans le corps. Donc c'est un peu les vases communicants, là, maintenant, si vous voulez. J'injecte d'un côté et j'aspire de l'autre.
Donc, vous la videz de son sang.
Voilà, exactement. Après le décès, c'est le sang qui va tourner le plus vite. C'est pour ça que les gens deviennent gris et verts. Donc là, c'est bon. Là,
alors, vous avez touché... Pourquoi ? Vous avez touché les yeux ?
Parce que, en fait, un corps décédé, il a les yeux tout mous, un peu comme un œil de poisson, vous savez. Ça fait un peu concave. Et là, en fait, en injectant, automatiquement, ça va redonner du tonus au globe oculaire. Donc, je vais savoir si mon produit a bien passé ou pas.
Alors, vous massez l'oreille ?
Oui. Si vous voulez, le sang a arrêté de circuler, puis il est tombé là. Ça s'appelle des lividités cadavériques. Et vous voyez comment elle change de couleur ? Elle devient plus blanche.
Et ça, c'est dû à ?
C'est dû à mon formol qui est en train de passer dans les oreilles. Donc là, j'aspire un petit peu. Maintenant, je vais aller un peu partout.
Au niveau des organes, c'est-à-dire que là, vous avez quitté le cœur.
Oui. Là, vous voyez, ça, c'est du liquide qui vient des poumons.
Oui, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus orangé.
Oui. Souvent, en fin de vie, les gens font des œdèmes pulmonaires. Vous savez, ils se noient. Des fois, on entend quand ils parlent, il y avait un bruit d'eau. Donc ça, on est obligé aussi d'aspirer. Parce que sinon, ça va ressortir par la bouche, par le nez. C'est pas agréable pour la famille qui vient visiter le défunt. Là, par exemple, je suis dans la vessie. Vous voyez ? Voilà. Puis maintenant, je vais laisser un petit peu là. Je referai encore un tour à la fin. Mais maintenant, je vais m'occuper de son visage.
Alors, on va retrouver Camille Béguin tout à l'heure pour les derniers soins apportés aux défunts. Mais là, d'abord, Marc-Antoine Berthaud. Je rappelle que vous êtes anthropologue, président de la Société d'études thanatologiques de Suisse. Alors, l'embaumement n'est pas obligatoire, évidemment. Mais en fait, qui décide s'il y a embaumement ou pas? C'est la famille qui le demande? C'est les professionnels qui le suggèrent ou qui l'ordonnent selon les circonstances de la mort?
Alors, c'est plutôt les professionnels qui le suggèrent. Dans les pays où l'embaumement est généralisé, si évidemment elle sera légale, eh bien à ce moment-là, on verra plutôt les pompes funèbres offrir une prestation de thanatopraxie. Certains pays ne la pratiquent que pour des motifs médico-légaux. Par contre, on entre dans le registre du funéraire pour présenter les défunts aux familles. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui apparaît dans l'orbite des prestations des pompes funèbres, ce qui avait déjà été le cas au tournant du XXe siècle aux États-Unis et au Canada.
Mais c'est-à-dire qu'il y a aussi un délai d'exposition si le corps doit rester.
Alors généralement,
exposé.
En fonction des cantons, il y a un minimum et un maximum à partir duquel on peut conserver et présenter les défunts. Et c'est sûr qu'avec la thanatopraxie, on peut garder beaucoup plus longtemps le défunt sans technique réfrigérante et permettre par exemple à des familles migrantes de venir une ou deux semaines plus tard pour une funéraille.
Des techniques réfrigérantes, vous avez des exemples ?
Alors, ça peut être de la glace carbonique qu'on pose sous le lit du défunt, même à domicile. C'est ce qui se pratiquait, disons, à plusieurs reprises il y a quelques décennies.
Mmh. Il y a aussi des lits réfrigérants qui se louent.
Ah, d'accord. Alors, on va retourner au laboratoire maintenant, au laboratoire mortuaire pour les derniers soins apportés aux défunts. Toujours en compagnie de Camille Béguin.
Oui, les derniers soins, ceux qui seront les plus visibles. Par exemple, si le défunt n'a pas de dents, Camille Béguin va trouver une astuce pour faire comme si. Ou parfois, chez les vieilles dames, elles ont des longs poils au menton. Elle va les raser si elle trouve que c'est disgracieux. Et puis, afin qu'aucun liquide ne sorte, elle introduit de longs morceaux de ouate dans la bouche et le nez. Et là, je dois vous avouer, Silvio, que à ce moment-là, c'est un geste qui m'a un peu heurtée. Alors, apparemment, je ne suis pas la seule à aller savoir pourquoi.
Ah, je ne sais pas, mais je pense que c'est sensible. Et tout le monde a une hantise qu'on a graillée dans le nez. Du coup, chaque fois que je fais ça, ça soulève le cœur de tout le monde. Mais donc moi, je mets le nez et ça va jusque derrière la bouche. Et puis, je mèche aussi la bouche.
Donc là, vous enfilez de la ouate dans la bouche.
Oui. Et maintenant, je vais coudre la bouche. Moi, dans mon métier, on nous apprend à coudre la bouche. Mais on ne verra rien.
La mâchoire est fermée.
Et voilà. Et on ne voit rien.
Ah, mais vous laissez quand même un tout petit peu les dents.
Oui, alors ça, c'est son rictus à elle. C'est comme les cheveux. Je fais par rapport à la personne. Théoriquement, je dois mécher le vagin, l'anus de tout le monde.
Quoi,
de
tout le monde. Mécher.
Mécher, c'est comme j'ai fait dans la bouche, mais de la ouate. Voilà. Mais je l'admets que j'aime pas trop faire ça. Alors, j'ai, comme si le soin est bien fait, de toute façon, ça va plus couler. Donc, j'ai investi dans des pampers culottes et je leur mets ça.
C'est par pudeur?
Aussi, oui. Et puis, autant c'est obligatoire, aux examens, j'étais obligée de le faire, autant c'est pas nécessaire parce que si vraiment c'est bien fait, ça va pas couler. Vous voyez?
Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, d'être, de devenir thanatopractrice?
Voilà. Bah, en fait, j'ai, depuis toute petite, quand je jouais avec mes poupées, je disais, quand je serai grande, je maquillerai les morts. Puis tout le monde s'est foutu de moi, ce qui est normal. J'avais, je sais pas, 6-7 ans. Et à 38 ans, je me suis retrouvée toute seule. Et là, j'étais chez mon médecin généraliste, qui est un ami. Puis je disais, il faut que je travaille. Il me dit, ben oui, mais tu veux faire quoi? Je dis, mais j'en sais rien, moi. Il me dit, mais tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Je dis, mais je voulais maquiller les morts. Il me dit, ben vas-y. Donc je suis indépendante. J'ai ma petite entreprise depuis 2011 maintenant. Et puis je travaille 7 jours sur 7. Ça c'est des...
Oui, alors vous avez des espèces de demi-coquilles. Voilà. Ce sont des grosses lentilles.
Ce sont des couvre-œils, ça s'appelle. En fait, c'est pour mettre sur le globe oculaire, même s'il est tonique, comme on a senti avant, automatiquement, dans 2-3 jours, l'œil, par la pesanteur, il va un petit peu tomber au fond de la tête. Pas tomber. Pour garder le joli bombé, on met ça. Et puis, je dois admettre que moi, j'ai la chance de pouvoir récupérer des corps qui sont frais. Je veux dire, les corps qui sont en putréfaction, qu'on découvre chez eux et tout ça, ils viennent pas ici.
Ils vont directement en médecine légale?
Alors déjà, mais même, moi, je récupère des corps après la médecine légale aussi. Hein, tous les autopsiés, ils viennent ici aussi, si jamais. Si les familles ont mandaté ces pompes funèbres ici, automatiquement, je vais m'en occuper. C'est pas du tout le même principe.
C'est-à-dire?
Un corps autopsié, automatiquement, il n'y a plus de circulation du sang. Ils ont tout coupé. Vous êtes d'accord?
Oui, et puis le cerveau, généralement, se retrouve dans les intestins, enfin dans le ventre.
Tout à fait. Et le bloc langue pharynx aussi. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'isole les viscères, j'isole dans des sacs avec du formol en poudre. Et je remets tout à l'intérieur du corps. Mais ils sont isolés. Et puis, on fait surtout le plus possible sur le visage, de nouveau.
Il vous arrive, Camille Béguin, d'avoir des corps accidentés?
Alors, il y a des fois où je ne peux rien faire. Je ne peux pas tout faire, mais j'essaye toujours de faire mon maximum. Là, nous allons passer au brofwing. Donc ça, c'est un produit miracle. C'est un shampoing, mais il ne se rince pas.
Et là, vous allez la coiffer comme il vous semble?
Oui, en plus, je la connaissais, donc je sais comment elle se coiffait.
Donc là, on vous a amené des habits et même du parfum.
J'aime bien quand il y a le parfum, parce qu'imaginez, vous entrez dans le salon, ça sent la personne que vous connaissiez. Ça sent son parfum. Moi, je mets sur les habits, et puis ça sent bon. Quoi. Et pour eux, c'est comme ils la retrouvent. Et puis, je vais unifier un petit peu le teint, mais elle est jolie comme ça. Je ne vais pas du tout lui mettre une couche de fond de teint. Pas du tout, je n'aime pas ça. Et puis, mon travail ne sert à rien à ce moment-là. Voilà, maintenant, la bouche.
Parce qu'on voit quasi plus la lèvre. La lèvre est...
Oui, elle est presque translucide.
Exactement.
Bon, il n'y a plus de sang. Donc, il n'y a plus de coloration, si on veut bien.
Et ça, c'est vraiment la dernière touche, le maquillage.
Oui. C'est très joli. C'est chou, hein.
Ouais. Parce que finalement, Camille Béguin, ce que vous faites, c'est enlever les stigmates de la mort.
Exactement.
C'est ça.
Oui, donner un côté apaisé pour que, quand la famille vient la voir dans son cercueil, dans le salon, ils disent « Ah, elle est bien ». Ils peuvent commencer leur processus de deuil dans les meilleures conditions.
C'était donc Camille Béguin, thanatopractrice diplômée. Marc-Antoine Berthaud, pouvoir voir le corps, c'est essentiel pour commencer un processus de deuil, comme elle vient de le dire?
Alors peut-être j'aimerais juste déjà distinguer effectivement les techniques qui sont destinées aux morts dans sa vie posthume, si on veut, la momification égyptienne par exemple, de la thanatopraxie, qui est plutôt effectivement à destination des vivants. D'où l'idée que finalement, ça va peut-être favoriser leur travail de deuil. Donc ça c'est un des arguments qui est souvent avancé, surtout si on peut restaurer le corps et puis le présenter. Néanmoins, il y a eu beaucoup de critiques aussi sur la pratique de la thanatopraxie, en disant qu'on cherche à rendre aux morts son apparence de vivant, comme s'il y avait un déni de la mort et que finalement on lui donnait cette apparence qui donne une certaine confusion. À mon sens, il n'y a pas de confusion possible. Hein. Tout le contexte funéraire dans lequel on est fait que le corps est mort et bien mort. Par contre, un des avantages sur la toilette funéraire, c'est que la toilette funéraire généralement permet de voir le mort, alors qu'avec la thanatopraxie, on peut encore le toucher. Et c'est des habitudes qu'on n'a pas forcément chez nous, mais on l'observe, notamment aux États-Unis, où on le touche, on l'embrasse même parfois, ce qui donne effectivement une autre dimension au rapport à nos corps défunts. Et puis ça permet aussi de personnaliser en quelque sorte la présentation des défunts, puisqu'on peut lui mettre des lunettes et un livre entre les mains par exemple, ce qu'on ne verra très très peu sur les morts avec une simple toilette funéraire qui porte les stigmates de la mort en tant que telle.
Moi, je dois quand même vous avouer que j'ai trouvé ça extrêmement invasif, quoi. Ça heurte rien qu'à entendre.
Alors, c'est sûr que le traitement est tout à fait invasif. On peut même penser qu'il est violent. Donc, c'est une technique qui est généralement insupportable. Les pompes funèbres, d'ailleurs, disent aux familles que c'est pas tellement supportable de le voir. On pourrait, dans certaines circonstances, encourager en quelque sorte les proches à le voir. Personnellement, j'en ai suivi et effectivement, je ne le ferai pas pour mes proches. Donc, en ayant vécu cette expérience, je me disais que, en fait, l'embaumement pouvait être une sorte de vanité funéraire. Mais une sorte de vanité funéraire qui est tout de même dans l'air du temps, avec tous les développements technologiques et scientifiques qui vont avec.
Mais par exemple, Marc-Antoine Berthaud, lorsqu'on est embaumé, on est inhumé et non pas incinéré.
Alors oui, généralement, on va pas se faire incinérer, notamment pour des motifs écologiques aussi. Hein. C'est toute une série finalement de produits chimiques. Il peut y avoir des controverses là autour.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des produits formolés, chlorés.
Voilà, qui vont s'introduire dans les sols. Ah, puisqu'à terme, effectivement, le corps se décompose de toute façon.
Il y a d'autres techniques aujourd'hui?
Oui, on voit apparaître de nouvelles techniques. Il y a par exemple l'aquamation, qui serait une sorte de crémation par l'eau, ou alors la promession, qui sont des techniques de réduction en poudre des corps, qui permettent finalement de traiter différemment les défunts. Peut-être qu'à l'avenir, on verra effectivement ces techniques se développer.
Vous êtes anthropologue? Et vous portez quel regard d'anthropologue sur ces nouveaux rites, qui sont des techniques en fait à la base funéraire?
Du point de vue anthropologique, on peut dire que finalement la thanatopraxie ne va pas changer grand-chose si on regarde, je dirais, l'un des principes fondamentaux qui consiste généralement à chercher à retenir le mort durant un certain temps pour mieux s'en séparer. Ce qui est un des ressorts fondamentaux de notre rapport aux morts. Ce que la thanatopraxie, finalement, permet de faire, peut-être dans un laps de temps plus long.
Eh bien, merci beaucoup, Marc-Antoine Berthaud. Je rappelle que vous êtes président de la Société d'études thanatologiques de Suisse, professeur aussi à la Haute École de Travail Social et de la Santé à Lausanne. Vous avez répondu là, ce matin, à l'invitation de Sarah Diren. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Merci à vous également.
CQFD sur la première.